Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 8. Nous avions pris le temps de développer la différence entre le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, qui fait de nous des nouvelles créatures, des hommes et des femmes qui avons cette communion, cette connexion à Dieu, cette action surnaturelle qui fait que la transformation se fait au-dedans de nous. Et ça, il n'y a que l'action du Saint-Esprit qui est capable de changer un bonhomme et une bonne femme comme nous, n'est-ce pas? Les psychologues ne peuvent rien faire. Nos maris et nos femmes n'ont rien pu faire non plus. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer là, ce qu'il y a vraiment au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Et il l'a fait. Donc ça, c'est l'action, c'est avoir l'Esprit de Dieu en soi. Et il est important aussi de dire à tous ceux qui veulent voir ce changement dans leur vie, de leur dire qu'il faut également qu'ils confessent leurs péchés. On ne peut pas attendre un changement dans une vie si on ne sait pas dans quel domaine. Si je suis un homme dur, violent, avec mon épouse, mais que absolument j'ai aucune prise de conscience du mal que je lui fais, Dieu ne pourra pas changer ça. Dieu est toujours celui qui va changer ce dont nous-mêmes nous prenons conscience, nous réalisons qu'il y a une nécessité de transformation. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Quiconque veut en connaître plus sur Dieu doit lire la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, nos yeux et notre conscience s'ouvrent sur ce que Dieu peut faire et sur la qualité de vie que nous pouvons découvrir en Jésus-Christ. Donc c'est tellement important pour dire à nos amis qu'il est important de lire la Bible et de réaliser par eux-mêmes que Dieu n'est pas celui qui veut changer comme ça pour faire un changement abstrait, mais qu'il y a véritablement une bénédiction de grâce, de délivrance, de relèvement, de guérison intérieure. Parce qu'effectivement, bien souvent, il y a des gens qui souffrent dans leur vie, parce que dans leur propre cœur, ils souffrent. Mais Dieu, œuvrant dans les cœurs, assainit après nos comportements. Alors ça, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Et il y a une autre dimension que la parole de Dieu nous invite à découvrir, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Deux expériences complètement différentes. L'une qui a pour vocation de changer notre caractère, et l'autre qui est destiné à nous rendre efficaces pour servir Dieu. Trois domaines dans lesquels Dieu nous demande d'être utile, efficace, capable. Dans l'ordre, on l'avait lu, Actes chapitre 1, verset 8, c'est dans le témoignage. Seigneur, j'aimerais pouvoir être un instrument de bénédiction. J'aimerais tellement pouvoir avoir cette audace de dire à ceux qui sont autour de moi, mais Jésus vous aime. Alors on peut le prier, on peut dire, oh Seigneur, s'il te plaît, et c'est bien, et je vous recommande de le faire. Dites au Seigneur chaque jour, s'il te plaît, ouvre une porte pour qu'aujourd'hui je puisse parler de toi. On le lit, on l'a vu récemment, les vendredis soirs, c'est une des prières qui sont dans la Bible. Priez pour que la parole de Dieu soit répandue. Il faut prier pour cela. Si nous ne prions pas pour que Dieu se serve de nous, alors nous ne serons jamais disponibles et disposés. Si nous ne prions pas pour que le Seigneur se serve de nous, au moment où il se servirait de nous, nous aurions l'esprit tellement ailleurs que nous ne saisirions pas l'occasion. D'où l'importance de prier chaque jour. Seigneur, s'il te plaît, ouvre une porte. Parce que si nous prions, avec conviction évidemment, pas une sorte de petite prière parce qu'il faut la faire, parce que le dimanche on a dit de le faire, je vais le faire, mais non, non, c'est cette prière que l'on porte dans le cœur. D'ailleurs, Dieu exauce non pas la prière de la bouche, mais Dieu exauce les prières du cœur. Ça, c'est une autre méditation une fois. Alors le Seigneur se servira de nous. Et il y aura l'assistance du Saint-Esprit, parce qu'on s'apercevra que bien des fois, on ne sait pas vraiment quoi dire aux gens, mais le Seigneur vous inspirera. Amen. Des fois, vous parlerez et vous serez surpris. Des versets bibliques viendront dans votre esprit, comme ça. Alors que même vous, ça fait longtemps que vous n'aviez pas lu cela, et ça vous vient comme ça. Dieu va vous inspirer, vous diriger. Vous parlerez avec quelqu'un, et comme par hasard, vous allez évoquer quelque chose qui le concerne. Et vous serez le premier surpris. T'entends, Dieu vous mettra des convictions sur votre cœur. Et là, bon nombre de témoignages, mais on ne va pas les prendre. Et puis aujourd'hui, on va voir le deuxième domaine de service auquel chaque chrétien est appelé à être à son poste. C'est le domaine de la prière. Donc Romains chapitre 8, verset 26, on va lire ce verset ensemble. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Une autre traduction dit que c'est lui qui intercède en nous, sans parole, mais dans ses soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Ce texte-là nous montre bien que dans notre faiblesse, allez, reprenons le terme biblique, que dans notre faiblesse dans la vie de prière, Dieu nous a donné un super compagnon, un turbo, une assistance, le Saint-Esprit. Et nous devons reconnaître qu'effectivement, dans le domaine de la prière, nous sommes faibles. On a beau se le dire, il faut prier. De temps en temps, il n'y a pas que la parole qui sert. On est là, on est limité. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait du témoignage, on a pris le temps d'axer sur le fait que le problème dans le témoignage, c'est surtout le sentiment de peur, d'appréhension d'aller au-devant des autres. J'ai vraiment insisté pour vous montrer que ce qui est important dans le témoignage, c'est que Dieu va surtout nous donner la force de surmonter peut-être les combats qu'il y a à l'intérieur. Vous vous rappelez, on avait vu ce passage où les chrétiens étaient persécutés, Pierre et Jean revenaient, les chrétiens étaient dans la peur, dans l'appréhension, ils ont prié, s'il te plaît, remplis nos serviteurs, qu'ils annoncent la parole avec pleine assurance. Et le texte nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ça a eu pour conséquence qu'ils annoncèrent la parole avec assurance. Le peuple, dans ce jour-là, était dans la crainte, dans l'appréhension, ils étaient dans des sentiments de faiblesse, de fragilité, de retenue. Ils furent remplis du Saint-Esprit et Dieu leur a donné la solution au mal qu'ils avaient dans leur cœur. Amen. Amen. Il faut comprendre que l'assistance du Saint-Esprit viendra toujours. Non pas dans les formes extérieures, c'est pas ça qui importe Dieu. Mais il vient assister dans l'être intérieur. Quand nous lisons là, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Et c'est selon Dieu qu'il intercède. Vous voyez que dans ce texte-là, Paul ne nous parle pas seulement d'une assistance du Saint-Esprit qui va faire qu'on va faire du bruit avec notre bouche. Il est surtout en train de nous dire que là où il y a peut-être un manque de cœur, un manque de hardiesse, un manque d'abondance, alors le Saint-Esprit sera là. Là où peut-être effectivement nos mots manquent, parce qu'on se sentirait limité, alors le Saint-Esprit va venir, et il va faire un travail intérieur. La première action du Saint-Esprit, lorsque nous parlons du Saint-Esprit dans la prière, je vais peut-être choquer quelques-uns, mais ce n'est pas le parler en langue. La première action du Saint-Esprit dans la prière, c'est de développer, d'activer notre cœur à la prière. Parce que là, c'est pareil. On peut très bien prier en langue juste 5 minutes et se sentir sec. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des assemblées d'apparence ou de bruit. Ce que Dieu veut, ce sont des cœurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Ce que Dieu veut, c'est activer le feu. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit porté, exalté, réchauffé, stimulé. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas des phrases. Ce que Dieu veut, il se contenterait même de soupirs inexprimables. Dieu a bien plus et voit bien plus profondément que nous. Nous, nous nous arrêtons souvent à quelques prières qui s'expriment. Oh, il parle bien, il prie bien. Mais Dieu voit bien plus loin que ça. Dieu éprouve, il connaît, il sonde les cœurs. Et je sais que ce matin, il y a peut-être des voix qui se sont tues. Mais il y avait peut-être des cœurs qui bouillonnaient beaucoup plus que d'autres. Qu'a regardé Dieu ce matin? Le bruit des lèvres? Ou la chaleur du cœur? Et le Saint-Esprit, la première vocation du Saint-Esprit, c'est de nous aider, de nous assister dans nos fragilités. Lorsque nous sommes dans le témoignage, le problème c'est bien souvent notre cœur, notre état de cœur, notre indisponibilité, notre faiblesse, notre appréhension, notre peur. Alors le Seigneur nous assiste pour nous donner de l'assurance, et après il nous donnera les mots, et après il nous donnera l'inspiration. Et dans la prière, c'est pareil. Le Seigneur vient assister, mais il vient au niveau du cœur. Si vous avez besoin de plus d'intimité avec le Seigneur, si vous réalisez que dans votre vie, vous êtes... Ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, je veux juste utiliser une image. Mais dans une logique encore trop superficielle, alors vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Si vous réalisez vous-même que lorsque vous priez, ça manque de cœur, ça manque de sentiment, ça manque d'implication de votre âme. Si vous réalisez que lorsque vous priez, il n'y a pas votre être intérieur, il n'y a pas votre tripe, il n'y a pas votre être intérieur. Alors il vous manque l'essentiel. Le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est pas vraiment ça dont vous avez premièrement besoin. Ce dont vous avez vraiment premièrement besoin. Dire, Seigneur, mets le feu dans mon cœur. Seigneur, je veux prier que quand je te loue, je veux vraiment être dans une adoration. Quand je prie pour les âmes, je veux vraiment être à la place des âmes, comme si moi-même j'allais en enfer. Seigneur, quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je veux moi-même être comme si j'étais le malade et que j'avais besoin de la guérison. Vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est biblique, n'est-ce pas?
Oui.
De se mettre à la place d'eux. Priez comme si vous étiez vous-même malade. Priez comme si vous étiez vous-même en prison. Et il faut que nous réalisions que pour développer les fruits extérieurs de la vie de l'esprit, il faut que nous comprenions que c'est d'abord à l'intérieur que nous devons travailler. C'est comme le témoignage. Nous ne pouvons pas demander, Seigneur, aide-moi dans le témoignage, si nous sommes quelque part indifférents à la perdition éternelle des âmes. Ce serait un peu incohérent, non? Seigneur, je veux te servir. Mais en fait...
si tu n'as pas besoin de moi, c'est pas grave. Hein.
Non. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ce que Dieu veut voir d'abord, ce sont des cœurs. La Bible nous parle de la ferveur. Soyez fervents d'esprit. Alors, il y a... là aussi, il faut que nous comprenions la place du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit ne prendra jamais notre place. Le Saint-Esprit, c'est une assistance.
Vous vous rappelez l'histoire du turbo qu'on mettait dans la voiture? Ok.
Il y a le moteur, et puis il y a une... oh, on rajoute le turbo et ça permet de décoller un peu plus. C'est exactement la même chose dans notre vie. Le Saint-Esprit sera un moyen pour vous donner plus de ferveur dans votre prière. Mais quelque part, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous devons exprimer le désir d'avoir également plus de ferveur. Dieu veut voir déjà notre implication. Seigneur, je veux m'investir pour être plus fervent. Mais dans ce que je peux faire, je serai limité, alors tu vas me venir en aide et je serai encore plus fervent. Vous comprenez le principe? Il faut que nous réalisions que le premier élément déclencheur, c'est nous-mêmes. Et là où nous serons au maximum de Seigneur, je voudrais tellement plus, et ben là, tac! Il y aura ce turbo spirituel qui prendra le relais. Et vous connaîtrez une vie de prière plus fervente, plus stimulée. Déjà parce que vous aurez déjà vous engagé le pas, et que le Saint-Esprit, voyant votre motivation et votre désir profond, vous donnera ce coup de pouce supplémentaire. C'est un peu comme on avait lu ce passage, Acte 4, où ils priaient tous ensemble. Mais ça en dit long, vous savez, sur ces prières collectives. Parce que le Saint-Esprit, il nous a déjà été déposé, hein, nous on est d'accord, on a déjà l'Esprit. Et comment est-ce qu'on considère nos réunions de prière? Normalement, nous sommes chacun des... Alors je confonds toujours les mots, des tissons. Il y a les tessons de verre et les tisons de feu. Ok, alors nous sommes, voilà, merci beaucoup. On reprend avec le bon mot. En principe, nous sommes chacun des tissons. Tisons. Nous sommes en principe plein de feu, plein d'ardiesse, plein d'énergie spirituelle. Et lorsqu'on rapproche des tisons les uns des autres, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle un peu plus. Ce devrait être la réalité de l'Église. Ça devrait être. Alors, il peut arriver que quelques tisons se soient pris quelques seaux d'eau dans la journée, dans la semaine, que certains se soient fait un peu écraser. Alors, ce jour-là, ils sont un peu moins... un peu cassés. Ça arrive, n'est-ce pas? Alors, quand ils se retrouvent auprès des autres, ils bénéficient de la chaleur des autres. Mais c'est à nous de veiller. N'est-il pas quelque part écrit que nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose? C'est-à-dire que nous devons être conscients que notre état de cœur, c'est la chose la plus importante. Si nous venons tous, chaque semaine, ou chaque rassemblement d'église, parce que heureusement il y a autre jour que le dimanche matin, pour se réchauffer. Tous toujours décassés. Alors on va avoir du mal à se réchauffer. Et pire encore, si on vient et qu'on se dit, bah, oh, il y aura bien tel ou tel frère qui lui, oh ouais, lui il a le feu, lui. Je vais me laisser porter. Alors ça devient l'inverse. Parce que vous mettez un tison bouillonnant. Et autour, vous mettez beaucoup plus de tisons complètement refroidis. Ça s'appelle des cendres en fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, c'est l'inverse. C'est pour ça que nous devons être conscients. Et que nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Non pas pour venir à l'église en disant « Seigneur, je vais me faire du bien. » Oui, on va se faire du bien. Mais cela est une conséquence d'une autre dimension qui est « Seigneur, je viens à l'église pour communiquer quelque chose. Je veux renouveler le feu qui est en moi. Je ne vais pas attendre que ce soit Pierre, Michel ou André qui ou les chants ou le prédicateur ou quelque chose qui me stimule. Je viens dans ta maison, Seigneur. Et peut-être qu'effectivement je suis cassé. Peut-être que j'ai pris des seaux d'eau. Peut-être que j'ai été écrasé dans cette semaine. Peut-être que j'en peux plus. Peut-être même que je ne sais plus où j'en suis spirituellement. » Mais votre solution ne viendra pas de l'Église. Votre solution viendra du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Lorsqu'on vient à l'Église, merci si mon frère, ma sœur est plein de feu et que sa prière me fait du bien. C'est un effet de la grâce de Dieu. Ça fait partie de la beauté de l'Église de Jésus-Christ. Mais notre espoir ne doit pas être fixé sur une ambiance qui vient de l'extérieur. Notre espoir doit être fixé sur le Dieu des cieux. Et même si je viens casser et fracasser, je ne veux pas venir en me disant « Bon, ça va être les autres qui vont me porter. » Je dis « Seigneur, je viens dans ta maison, je suis cassé. Mais Seigneur, s'il te plaît, renouvelle en moi ta ferveur. Renouvelle en moi ton feu, Seigneur. Renouvelle en moi, je ne veux pas être dans cette situation. » Et quand on commence à lever les yeux vers le Seigneur, à lui réclamer à lui qu'il y ait le feu, alors là, il y a le bon feu qui s'anime. Parce que si on se laisse réchauffer seulement par l'Église, vous serez chaud, mais uniquement de l'extérieur. Et vous partirez de ce lieu. Et vous allez vite, vous n'aurez même pas le temps de rejoindre l'autre voiture que vous serez dans le même point de température que le jour où vous êtes sorti. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un feu qui vient de l'extérieur. Merci Seigneur pour la communion fraternelle qui permet effectivement cette isolation extérieure. Mais ce qu'on a besoin, c'est que le feu soit de l'intérieur. Le tison est un tison parce qu'il a déjà cette ardeur à son cœur. La cendre peut être chaude, mais elle n'est pas capable de communiquer quelque chose. La cendre peut être chaude, Mais quand elle se retrouve tout seule, dans sa maison, sur son lieu de travail, alors elle va vite reprendre la température de l'ambiance. Nous devons réaliser que nous devons réaliser que dans la prière, le Saint-Esprit est une aide, une assistance pour réchauffer ce que tu as déjà déposé en moi. Et c'est pour ça que je vous le redis et que je n'arrêterai pas de le dire. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous. Ne dites pas « Oh, j'ai pas fait ça » ou « Il faut faire ceci ». Il n'y a pas de principe. Vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous. Mais excitez-le, échauffez-le, soufflez dessus, réclamez qu'il y ait cette explosion de l'intérieur vers l'extérieur. On reprend le verset de Jésus qui lui-même a dit en Jean chapitre 7 verset 38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive rouleront de son le sein. » Ça va jaillir de là, de nos tripes, de nos cœurs, de notre être intérieur. Et il dit cela, c'est bien dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Mais Christ est mort à la croix, il est glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons déjà reçu. Mais il faut que nous disions, Seigneur, je veux être ce tison. Je veux que la chaleur intérieure soit plus forte que la chaleur extérieure. Je veux qu'il y ait cette émulation, je veux qu'il y ait cette cocotte au-dedans dans mon cœur. Mais c'est pas grave, mon bien-aimé. Ce n'est pas grave si, en entendant ces paroles, tu es en train de te dire, mais moi je reconnais que c'est pas chaud dedans. Ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que si tu demandes au Seigneur, il va réchauffer ton cœur. Amen. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole que Dieu nous donne n'est pas une parole pour dire « t'es un mauvais ». Mais pour te dire « hé, il y a quelque chose de plus grand devant toi. Viens à moi. Réclame l'action du Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu. Et ces fleuves qui sortiront de ton sein, de ton cœur, de ton âme, de tes tripes. » Alors là, ça va jaillir. C'est une belle illustration d'ailleurs de ce que nous appelons et de ce que la Bible appelle le parler en langue. La Bible nous dit bien que le parler en langue, c'est... Alors je vous lirai à la maison dans 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il prie, il chante, il rend grâce et il s'édifie. Donc on voit bien que le parler en langue, c'est véritablement une relation entre nous et Dieu. Est-ce que le parler en langue est indispensable?
Oui, pour parler à Dieu.
On peut parler à Dieu comme on le fait là, de manière spécifique. La question n'est pas de savoir si c'est techniquement utile ou pas utile. Déjà, si Dieu nous donne quelque chose, c'est que c'est utile. Dieu ne fait rien inutilement. Donc déjà, nos bien-aimés, si on se dit « Oh, le parler en langue, c'est pas forcément utile », alors il faut qu'on aille téléphoner à Dieu et dire « En fait, t'as mis des trucs, ça sert à rien hein ». Mais là, je crois qu'on se dit « Non, en fait, peut-être que c'est nous qui nous trompons ». Si Dieu nous donne le parler en langue, c'est utile. Et si on se rappelle des paroles de Jésus en Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah ouais, c'est utile. Ils parleront en langue, deuxièmement.
Oui.
Donc Jésus lui-même, dans sa perspective des miracles, des prodiges, des guérisons, etc., il a mis au même niveau le fait de parler en langue. Si je vous dis ce que c'est utile de guérir les malades, vous allez me dire quoi, vous? Ah bah oui, on aimerait bien. Et là, aux yeux de Dieu, le parler en langue, c'est aussi important. S'il me manque le parler en langue dans ma vie, il faut que je reconnaisse qu'il y a quelque chose d'important qu'il me manque dans ma vie. On n'est pas en train de dire que c'est une condition de salut, hein. On n'est pas là-dessus, hein. On est en train de parler d'équipement pour servir le Seigneur. Et on se rend bien compte que chasser les démons, guérir les malades, écraser la tête des serpents et des scorpions, c'est utile dans le service. Quand on parle aux âmes, qu'elles sont un peu incrédules, qu'on commence à prier pour les âmes et que les âmes sont touchées, visitées, guéries, eh ben, il y a une autre écoute, une autre disposition. Ah, merci. Mais sinon, vous entendez bien ?
Oui.
Bon, ça va. Aujourd'hui, il y a de la voix, donc ça va. Merci, Anne. Donc, le Saint-Esprit, c'est important. C'est important pour servir le Seigneur. Alors, dans quel domaine ? Dans le domaine de l'intercession. Dans le domaine de la prière. C'est sûr que si je vais dans la rue et que je commence à parler en langue, c'est pas dans le domaine du témoignage que ça va être très utile. Dans le domaine des dons, des services, vous allez vous rendre compte que c'est pas très utile de parler en langue pour servir les gens, non. Mais dans le domaine de la prière, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une description qui est faite au chapitre 14, verset 14, je vous la lis, il dit, celui qui parle en langue, car si je parle en langue, mon esprit, là il parle de la dimension spirituelle de l'être humain, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence, c'est-à-dire ma conscience, ma réflexion, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Alors je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Avant de développer, je vais vous relire la même phrase qui a été traduite autrement. Si je prie en langue inconnue, et que je prononce des sons inintelligibles, mon esprit, certes, s'entretient avec Dieu, mais mon intelligence n'y participe pas et n'en retire aucun profit. Que ferais-je donc ? Ben alors, je vais me laisser diriger par l'inspiration de l'esprit dans mes prières, mais je veux aussi associer mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit qui m'y pousse, mais je veux aussi être conscient de ce que je chante et louer Dieu avec ma raison. Pourquoi est-ce que je vous lis ça ? Parce que dans la perspective biblique, la notion de l'intelligence et de ce que nous appelons maintenant au 21e siècle, le cœur, c'est pareil. En fait, nous, dans notre société moderne, on va distinguer la conscience et le sentiment. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? Mais dans la perspective biblique, lorsque nous lisons les mots intelligence, d'ailleurs c'est rare qu'il ait parlé de cœur, parce qu'en fait c'est la même chose. On ne peut pas dissocier en fait l'implication intellectuelle, la volonté et le cœur. On en revient toujours à la même logique avec Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement de l'extérieur. Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement de l'intellect. Ce que Dieu veut, c'est un corps, esprit, âme et corps. Et lorsque, effectivement, spirituellement, je commence à parler en langue, nous parlons en langue, il y a là un exercice qui n'est pas d'ordre naturel, mais qui est inspiré de Dieu. Mais en même temps, dans mon être intérieur, dans ma capacité, dans mes émotions, dans ce qui relève de ma personne, je veux aussi y impliquer mon cœur, ma pensée. C'est-à-dire que quand on parle en langue, nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui est dit. D'ailleurs, nous comprenons rarement ce que nous disons. Mais ce qui est capable, ce qui est dans notre possibilité, c'est de mettre notre cœur dans cette action de grâce. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a toute cette dimension qui est au-delà de notre conscience. C'est que lorsque je parle en langue, je laisse l'Esprit de Dieu passer en moi. Il y a des sons qui sortent de ma bouche. Mais surtout, mon attention ne va pas être sur les mots. Mon attention, ma volonté va être sur l'adhésion morale et spirituelle, cette adhésion de mon cœur dans ce parler en langue. Est-ce que je suis clair ?
Oui.
On peut parler avec quelqu'un et lui dire des mots très intelligibles, mais sans aucun cœur. Je peux aller rendre visite à un malade, il y a vraiment bon rétablissement, et puis sentir qu'il me manque un peu de cœur. Et ça nous est tous arrivé, ce genre de situation. Nous sommes limités dans nos sentiments, bien souvent. Il peut être pareil dans la prière. On peut entendre exprimer une prière avec notre intelligence. « Seigneur, fais cela !» Et puis, il manquait un peu de conviction ou de cœur. Lorsque nous laissons, et que nous voulons aller plus loin dans la vie spirituelle, et que justement, parce que nous réalisons que nous sommes faibles, alors on est en droit de dire « Seigneur, donne-moi ce parler en langue. » Parce que Quand tu me donneras de parler en langue, ma bouche sera libre, elle va s'exprimer. Et alors je pourrai me concentrer, non pas sur ce que je vais dire, non pas sur ce que je dois dire, mais je vais concentrer mon cœur, mon raisonnement, mon être intérieur sur les sentiments avec lesquels tu veux que ces prières soient portées. Et il y a ainsi une palette de vie spirituelle qui s'élargit devant nous. Il y a des fois où nous serons portés à louer, à adorer, à exalter notre Dieu. Nous ne saurons pas ce que nous dirons, mais notre cœur va s'échauffer à exalter la grandeur de Dieu. Nous ne comprendrons pas ce que nous dirons, mais notre cœur, notre intelligence, notre faculté morale va comprendre qu'on est dans un temps de louange, d'adoration de Dieu. Des fois, nous sentirons que nous sommes dans un combat spirituel. Il y aura comme une sorte de conflit intérieurement. On sent qu'on est en train de parler en langue, on ne sait pas exactement ce qu'on dit, et on ne sait pas vraiment exactement non plus vers quoi on prie, mais on sait que là on est plutôt dans un combat spirituel, on est en train de lutter avec des puissances spirituelles, on sait que là il y a comme une sorte de résistance spirituelle, et on va parler en langue, et plus nous allons concentrer notre prière sur cette intention spirituelle, c'est là qu'on sent après des déblocages. C'est là qu'on sent qu'on passe d'une réalité calculée à une réalité inspirée. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser notre être intérieur être conduit par le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à rentrer dans cette description. Parce que tout ce que je viens de dire là est complètement compris par ceux qui expérimentent ça. Et pour certains, c'est du charabia. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas comprendre si on ne les vit pas. Ce que vous devez réaliser, c'est que pour parler en langue, il faut avoir le désir d'avoir un cœur qui brûle intérieurement. De se dire dans ma vie de prière, je veux dépasser mon raisonnement. Je veux que dans ma vie de prière, j'aille plus loin que ce que j'arrive à maîtriser ou à canaliser. Je veux qu'il y ait là, au contraire, une vie de l'esprit qui me porte et que mon cœur, lui, se colle à cette dimension spirituelle. Est-ce que, si nous ne sommes pas, si nous ne parlons pas en langue, est-ce que nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit ? Je le rappelle, quitte à être un peu lourd, mais à rassurer tout le monde. Je le dis que, à la base, nous avons, la plupart de ceux qui se sont repentis, qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui ont laissé le Saint-Esprit les transformer, ils ont déjà l'Esprit de Dieu. Donc vous avez des esprits. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est cette dimension de puissance, d'assistance. Et indéniablement, tous les passages qui nous parlent du baptême dans le Saint-Esprit dans la Bible l'associent au parler en langue. Tous. Il y a peut-être juste un exemple lorsque Ananias, le disciple Ananias, on va revenir sur cet exemple-là tout à l'heure. Lorsque le disciple Ananias est envoyé par Dieu pour prier pour Paul afin qu'il reçoive le Saint-Esprit, il ne nous est pas dit à ce moment-là qu'il a parlé en langue. Mais Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va dire qu'il parle en langue plus que les autres. La Pentecôte sont baptisés dans le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Pierre annonce le message chez Corneille, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Lorsque, après, il y a eu ce réveil dans Samarie, que Philippe a annoncé l'évangile, que Pierre et Jean sont venus prier pour les croyants, il y avait déjà des miracles, des prodiges qui s'étaient déroulés. Et quand Simon a vu ce qui s'était passé au moment où ils ont prié pour eux, il dit « Mais donnez-moi ça aussi !» Qu'est-ce qu'il avait vu de plus, si ce n'est le parler en langue? Le texte ne le dit pas explicitement. Mais quand on a déjà vu les miracles, les délivrances, les démons être chassés, qu'est-ce qui reste de la panelle de ce que Jésus a parlé? Il parlait de ce signe du parler en langue. Et cet homme qui était de l'extérieur dit « Mais donnez-moi aussi le Saint-Esprit pour que quand j'aille aussi prier pour eux, il se passe la même chose !» Si ce n'est pas le signe d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, on peut dire quand même que le parler en langue, c'est le signe évident du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. Ne nous limitons pas à dire « Seigneur, je suis baptisé en Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Mais bon, moi je pense que j'ai quand même l'esprit. C'est vrai, vous avez l'esprit. Mais vous avez besoin d'avoir cette assistance surnaturelle qui va vous aider dans le témoignage, qui va vous aider dans la prière. Et ne dites pas que c'est une option, je vous en supplie. C'est une nécessité, c'est un besoin. C'est une force qui va vous aider, qui va vous stimuler, qui va vous porter. Même lorsqu'on se sent faible, alors il y a le Saint-Esprit qui prend le relais. Et quand on est fort, eh ben ça permet encore de se sentir encore plus porté par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce signe-là, le parler en langue? Bon, je n'ai pas forcément de réponse théologique évidente, enfin. Mais quand même, quand on réfléchit, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut que nous réalisions qu'il y a une puissance spirituelle dans les choses qui sont proclamées, qui sont dites. C'est Paul qui va nous rappeler que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui, oui, je crois, c'est bien. Mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Il y a une réalité. C'est que lorsque nous exprimons quelque chose, lorsque nous parlons, ces choses-là ont une influence. À tel point que même Jésus a dit, chaque être humain devra rendre compte pour ses paroles, pour ses paroles vaines. C'est que nous, quand on croit que, quand on parle, bon bah, c'est dit. Mais ça a une importance, les paroles. N'importe quel psychiatre vous dira que les paroles qui sont dites à un enfant le marquera toute sa vie. Ce qui est vrai à l'égard des êtres humains est légal et est également vrai dans le monde spirituel. Et lorsque nous prions, lorsque nous confessons, lorsque nous proclamons les choses spirituellement, ça a un poids, une autorité spirituelle. Et c'est pour ça que l'on peut comprendre également que Dieu ait choisi le parler en langue. Parce que c'est bien d'avoir l'esprit en soi, c'est bien qu'il y ait ce soupir, qu'il y ait ces émotions. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait encore plus de puissance. Amen. Et c'est pour ça que le parler en langue est un tremplin pour notre vie spirituelle. On encourage ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, et même ceux qui ne sont pas passés par les eaux de Bethléem, mais ceux qui s'approchent de Dieu, nous les encourageons à élever la voix. Parce que c'est déjà un tremplin lorsqu'on prend l'audace dans l'assemblée ou à la maison d'élever la voix, de dire quelques mots, de proclamer les choses. Le cœur se réchauffe, n'est-ce pas? Il y a même des fois, on vient à l'église, on n'est pas dans notre assiette, on n'est pas dans un bon état d'esprit. On aurait plus envie d'être couconné que de rentrer dans le combat. Et je vous le dis, vous voulez une solution? Et vous la pressentez déjà? Élevez la voix, glorifiez le Seigneur, exaltez-le. Et même si votre prière dure 5 secondes, vous allez vous apercevoir que si vous êtes venu accassé, abîmé, peut-être faible, et vous sentez misérable, le fait de proclamer la grandeur de Dieu, ce sera déjà une victoire qui vous permettra de ressortir de ce lieu fortifié. Amen. Amen. Le fait de chanter, c'est une manière d'exprimer la grandeur de Dieu. Il y a une différence quand même entre chanter et prier. C'est que chanter, on s'appuie sur les paroles des autres. On dit amen, on est d'accord. Et c'est déjà bien. Mais lorsqu'on exprime à Dieu notre propre cœur, notre propre pensée, alors il y a une victoire qui est spirituelle. Et lorsqu'on se laisse aller dans le secret de notre chambre à parler en langue, vous allez voir que quel que soit votre état d'esprit, quel que soit votre état d'âme, quelle que soit votre situation, lorsque vous commencez à parler en langue, vous mettez quelque part votre esprit de votre conscience, votre intelligence de côté, et vous laissez l'occasion à l'esprit de faire un travail en vous. C'est pour ça que Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pour ça que Paul disait qu'il parlait en langue abondamment. Qu'est-ce qu'on fait le plus chez nous? Est-ce qu'on prie le plus avec notre intelligence? Ou est-ce qu'on laisse une grande part à l'esprit de nous porter dans la prière? Paul, lui, nous a déjà donné son secret. Lui, il se laissait porter par l'esprit. Et son intelligence se laissait influencer par l'esprit. Et bien souvent, nous cherchons à faire l'inverse. Nous mettons notre intelligence, nos capacités. Et puis on dit au Saint-Esprit, bon, bah, colle-toi dessus. Hein. Et au bout d'un quart d'heure, bah, c'est sec. Ben oui. Alors que ça va être l'inverse. Seigneur, prends-moi, partage-moi.
Et le Seigneur nous fera grâce.
Amen. Que le Seigneur nous donne de réaliser que les fleuves d'eau vive, c'est cet élan qui vient de l'intérieur et qui peut s'exprimer jusque sur l'extérieur. Est-ce que vous réalisez, est-ce que quelqu'un réalise ce matin qu'il a besoin de plus de ferveur? Alors réclame le Saint-Esprit. Quelqu'un réaliserait qu'il a besoin de plus d'intimité avec Dieu. De dire, mais Seigneur, ce matin-là, il y a plein de choses que je n'ai pas compris entre cette intelligence, cet esprit. Et j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de fusion, mais moi, c'est abstrait pour moi. Tu as besoin de plus d'intimité. Tu as besoin d'être plus proche dans le cœur de Dieu. Tu as besoin de plus d'approfondissement dans la vie spirituelle. Tu as besoin de rentrer dans une dimension qui n'est pas d'ordre intuitif, mais qui est dans une ordre spirituelle. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu réalises peut-être ce matin que tu as besoin d'une action céleste, d'une action qui vienne dans ton cœur et qui te porte. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu réalises que ta vie de prière est superficielle. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu réalises que tu manques de profondeur dans ta louange, que tu manques de profondeur dans ton intercession. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu te sens sec lorsque tu es seul avec le Seigneur. Alors tu as besoin du parler en langue. J'invite à vous recueillir un instant.